Compréhension de l'oral, niveau fondamental. Sujet numéro 1. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
C'est dans les Hauts-de-France que nous allons. Bonjour Emmanuel Moreau.
Bonjour Mathilde Munoz.
Au cœur de votre chronique, l'esprit d'initiative, un supermarché qui se métamorphose pour permettre aux personnes handicapées de faire leurs courses sereinement.
Et oui, effectivement, le Super U de Tourotte a décidé d'aménager, une fois par semaine, ses créneaux horaires. Ainsi, tous les mardis, ce commerce change d'allure. Il devient silencieux et échappe à l'agitation habituelle. Entre 13h30 et 15h30, c'est la chasse au bruit, stressant. On n'entend plus les bips des produits scannés à la caisse. La musique de fond disparaît, le magasin se plonge dans une ambiance reposante pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap et toute autre personne aussi.
Et qui a eu cette idée ?
Eh bien, vous imaginez bien, Mathilde, qu'une telle révolution ne peut provenir que d'une rencontre. Elle est née suite à un rendez-vous entre David Blaise, le gérant du magasin, et David Teixeira, qui est président fondateur de l'Éclosion Bleue, une association qui milite pour l'intégration des autistes dans la société. David m'a présenté son souhait de voir se développer en France des magasins adaptés aux personnes en situation de handicap avec une ambiance adoucie. J'ai tout de suite été séduit, explique le gérant du supermarché UD Tourotte. Les deux hommes se sont d'autant plus vite compris que tous les deux ont une personne handicapée dans leur famille.
Et ces moments où le supermarché se métamorphose, ils sont encadrés par des membres de l'association ?
Eh bien effectivement, durant 2 heures, tous les mardis, des bénévoles de l'Éclosion Bleue sont effectivement là. Ils expliquent aux clients cette démarche qui peut surprendre. Des cartes pour se repérer dans le magasin sont distribuées avec des gommettes pour faciliter les achats. Et tout le monde réagit positivement, comme le confirme Claudia Cohen du Figaro Demain.
Au-delà des personnes souffrant de handicap, les retours des clients sont également plus que positif. Le calme des lieux est agréable et tout le monde peut en profiter, confie Annabelle, une habituée du magasin. Pour la sexagénaire, il est bon de faire ses courses dans une ambiance apaisante et si je peux aussi participer à faire en sorte que des personnes se sentent plus incluses dans la société, j'en suis ravie, ajoute-t-elle.
Et cette action, elle est unique en France ?
Eh bien en France, oui, mais on trouve quelques exemples à l'étranger. Cette pratique est déjà un petit peu développée en Australie, mais aussi chez nos voisins anglo-saxons. Elle reste, c'est vrai, exceptionnelle dans l'Hexagone.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
« c'est dans les Hauts-de-France que nous allons. Bonjour Emmanuel Moreau.
Bonjour Mathilde Munoz.
Au cœur de votre chronique, l'esprit d'initiative, un supermarché qui se métamorphose pour permettre aux personnes handicapées de faire leurs courses sereinement.
Et oui, effectivement, le Super U de Tourotte a décidé d'aménager, une fois par semaine, ses créneaux horaires. Ainsi, tous les mardis, ce commerce change d'allure. Il devient silencieux et échappe à l'agitation habituelle. Entre 13h30 et 15h30, c'est la chasse au bruit, stressant. On n'entend plus les bips des produits scannés à la caisse, la musique de fond disparaît, le magasin se plonge dans une ambiance reposante pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap et toute autre personne aussi.
Et qui a eu cette idée ?
Eh bien, vous imaginez bien, Mathilde, qu'une telle révolution ne peut provenir que d'une rencontre. Elle est née suite à un rendez-vous entre David Blaise, le gérant du magasin, et David Teixeira, qui est président fondateur de l'Éclosion Bleue, une association qui milite pour l'intégration des autistes dans la société. David m'a présenté son souhait de voir se développer en France des magasins adaptés aux personnes en situation de handicap avec une ambiance adoucie. J'ai tout de suite été séduit, explique le gérant du supermarché UD Tourotte. Les deux hommes se sont d'autant plus vite compris que tous les deux ont une personne handicapée dans leur famille.
Et ces moments où le supermarché se métamorphose, ils sont encadrés par des membres de l'association ?
Eh bien effectivement, durant 2 heures, tous les mardis, des bénévoles de l'Éclosion Bleue sont effectivement là. Ils expliquent aux clients cette démarche qui peut surprendre. Des cartes pour se repérer dans le magasin sont distribuées avec des gommettes pour faciliter les achats. Et tout le monde réagit positivement, comme le confirme Claudia Cohen du Figaro Demain.
Au-delà des personnes souffrant de handicap, les retours des clients sont également plus que positif. Le calme des lieux est agréable et tout le monde peut en profiter, confie Annabelle, une habituée du magasin. Pour la sexagénaire, il est bon de faire ses courses dans une ambiance apaisante et si je peux aussi participer à faire en sorte que des personnes se sentent plus incluses dans la société, j'en suis ravie, ajoute-t-elle.
Et cette action, elle est unique en France ?
Eh bien en France, oui, mais on trouve quelques exemples à l'étranger. Cette pratique est déjà un petit peu développée en Australie, mais aussi chez nos voisins anglo-saxons. Elle reste, c'est vrai, exceptionnelle dans l'Hexagone.
Sujet numéro 2. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Il est 8h54 à Paris, c'est l'heure de votre rendez-vous culture avec Sarah Tisser aujourd'hui. Bonjour Sarah.
Bonjour.
On prend de la hauteur avec vous ce matin. Vous nous emmenez sur le toit de la Grande Arche de la Défense à Paris, où le street artiste Cyril Congo expose ses œuvres. Graffeur de renommée internationale, il nous raconte son parcours de la rue à l'atelier.
Un parcours qui le conduit à collaborer désormais avec de très grandes marques de mode et d'artisanat d'art, de Chanel à la Cristallerie d'Aume. On va y revenir. Mais d'abord, c'est effectivement dans la rue qu'il a commencé. La cinquantaine aujourd'hui, Cyril Congo a 17-18 ans à la fin des années 80 quand il pose ses premiers tags en région parisienne, seul, puis avec le collectif de graffeurs Mac. Il dessine des lettres, sa spécialité depuis lors.
On était des gamins qui inventions notre style, notre vocabulaire. On passait des week-ends, des semaines à repeindre des murs, dans Paris même. Hein. L'Est parisien a été l'un des fiefs du graffiti. Rappelez-vous à l'époque où l'Opéra Bastille était en train de se monter, il y avait des terrains, des murs partout. Et c'était une aire de jeu incroyable. C'était une sacrée aventure. On a pu réaliser des fresques énormes, 80 mètres par 6 mètres. Et c'était des fresques qu'on faisait sans permission. Des heures de garde à vue, on en a fait plein. Dans les années 80 et années 90, c'était ça. Hein. Quand je sortais une bombe de peinture et que j'écrivais sur un mur, on m'appelait les flics systématiquement. Aujourd'hui, c'est très dans l'air du temps de peindre dans la rue. À l'époque, ça n'était pas du tout. Et on t'envoyait en garde à vue. Et voilà, ça, c'est une spéciale dédicace pour tous mes potes qui sont passés par là aussi, quoi.
À l'époque, Cyril Congo, lui, vient d'arriver de Brazzaville, d'où son pseudonyme d'ailleurs, hommage à un pays, le Congo, cher à son cœur, une étape importante dans son enfance mouvementée. C'est que Cyril Phan, de son vrai nom, est en fait né de mère française et de père vietnamien. À la chute de Saïgon, où il vivait en famille en 75, son père est arrêté et lui, envoyé en France. Les retrouvailles avec ses parents n'auront lieu que 8 ans plus tard, à Brazzaville.
Quand mon père est sorti du camp de rééducation et que ma mère a eu son poste au Congo, elle travaillait pour les affaires étrangères françaises. J'ai pu les rejoindre, vivre à Brazzaville avec eux. Et c'était pour moi une double renaissance. Voilà, je retrouvais les odeurs des tropiques du Vietnam. Et j'ai retrouvé mes parents. Ça m'a permis de me reconstruire essentiellement. C'était mes années d'adolescence, les années d'insouciance. Je me suis bien éclaté. Puis c'est là où j'ai découvert aussi le mouvement hip-hop par des amis camerounais. Ouais, c'était génial.
À Brazza, Congo a donc découvert le hip-hop et en arrivant à Paris, le graffiti.
Le graffiti me permettait d'être quelqu'un d'autre, pas être simplement un élève timide de la classe 2, mais Congo, le graffeur, ce qui me donnait une identité et une reconnaissance que je recherchais à cette époque-là. J'étais perdu en France, j'étais pas vraiment français, pas vraiment vietnamien, pas vraiment congolais, donc finalement j'en ai fait une force.
Et Cyril Congo passe ainsi 10-20 ans à apprendre à peindre des œuvres éphémères sur les murs de Paris, New York et ailleurs. Seules des photos et des films en témoignent, Sarah, mais depuis le début des années 2000, il travaille également en atelier.
C'est ce qu'on découvre.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Il est 8h54 à Paris, c'est l'heure de votre rendez-vous culture avec Sarah Tisser aujourd'hui. Bonjour Sarah.
Bonjour.
On prend de la hauteur avec vous ce matin. Vous nous emmenez sur le toit de la Grande Arche de la Défense à Paris, où le street artiste Cyril Congo expose ses œuvres. Graffeur de renommée internationale, il nous raconte son parcours de la rue à l'atelier.
Un parcours qui le conduit à collaborer désormais avec de très grandes marques de mode et d'artisanat d'art, de Chanel à la Crystal Rideau. Y revenir, mais d'abord, c'est effectivement dans la rue qu'il a commencé. La cinquantaine aujourd'hui, Cyril Congo a 17-18 ans à la fin des années 80 quand il pose ses premiers tags en région parisienne, seul, puis avec le collectif de graffeurs Mac. Il dessine des lettres, sa spécialité depuis lors.
On était des gamins qui inventions notre style, notre vocabulaire. On passait des week-ends, des semaines à repeindre des murs, dans Paris même. Hein. L'Est parisien a été l'un des fiefs du graffiti. Rappelez-vous à l'époque où l'Opéra Bastille était en train de se monter, il y avait des terrains, des murs partout. Et c'était une aire de jeu incroyable. C'était une sacrée aventure. On a pu réaliser des fresques énormes, 80 mètres par 6 mètres. Et c'était c'était des fresques qu'on faisait sans permission, des heures de garde à vue, on en a fait plein. Dans les années 80 et années 90, c'était ça. Hein. Quand je sortais une bombe de peinture et que j'écrivais sur un mur, on m'appelait les flics systématiquement. Aujourd'hui, c'est très dans l'air du temps, de peindre dans la rue. À l'époque, ça n'était pas du tout. Et on t'envoyait en garde à vue. Et voilà, ça c'est une spéciale dédicace pour tous mes potes qui sont passés par là aussi, quoi.
À l'époque, Cyril Congo, lui, vient d'arriver de Brazzaville, d'où son pseudonyme d'ailleurs. Hommage à un pays, le Congo, cher à son cœur, une étape importante dans son enfance mouvementée. C'est que Cyril Phan, de son vrai nom, est en fait né de mère française et de père vietnamien. À la chute de Saïgon, où il vivait en famille en 75, son père est arrêté et lui, envoyé en France. Les retrouvailles avec ses parents n'auront lieu que 8 ans plus tard, à Brazzaville.
Quand mon père est sorti du camp de rééducation et que ma mère a eu son poste au Congo, elle travaillait pour les affaires étrangères françaises. J'ai pu les rejoindre, vivre à Brazzaville avec eux. Et c'était pour moi une double renaissance. Voilà, je retrouvais les odeurs des tropiques du Vietnam. Et j'ai retrouvé mes parents. Ça m'a permis de me reconstruire essentiellement. C'était mes années d'adolescence, des années d'insouciance. Je me suis bien éclaté. Puis c'est là où j'ai découvert aussi le mouvement hip-hop par des amis camerounais. Voilà, c'était génial.
À Brazza, Congo a donc découvert le hip-hop et en arrivant à Paris, le graffiti.
Le graffiti me permettait d'être quelqu'un d'autre, pas être simplement un élève timide de la classe 2, mais Congo, le graffeur. Ce qui me donnait une identité et une reconnaissance que je recherchais à cette époque-là. J'étais perdu en France, j'étais pas vraiment français, pas vraiment vietnamien, pas vraiment congolais, donc finalement j'en ai fait une force.
Et Cyril Congo passe ainsi 10-20 ans à prendre, à peindre des œuvres éphémères sur les murs de Paris, New York et ailleurs. Seuls des photos et des films en témoignent, Sarah, mais depuis le début des années 2000, il travaille également en atelier.
C'est ce qu'on découvre.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 3, document sonore, première écoute.
72% des parents français donnent de l'argent de poche à leurs enfants. Ils se comportent à peu près comme l'ensemble des parents européens qui sont 79% à le faire. En termes de somme, les Français sont les deuxièmes plus généreux donateurs, juste derrière les parents italiens. 2 euros par semaine avant 5 ans, 5 euros entre 5 et 10 ans, 10 euros entre 10 et 15 et 20 euros au-delà. Mais à partir de quel âge est-il justifié de donner de l'argent de poche à son enfant? La réponse d'Audie Lamblard, rédactrice en chef du site internet enfant.com.
Au moins 6 ans, parce que tant qu'il ne sait pas compter, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui aura de la valeur, c'est si la pièce brille plus qu'une autre. Ensuite, donc à la fin du cours préparatoire, l'enfant, il sait bien compter. Et là, commencer à lui donner de l'argent de poche, c'est d'abord lui donner le sentiment qu'il rentre dans la cour des grands. C'est le responsabiliser. Et c'est aussi lui donner un peu d'autonomie, parce que lui seul va décider s'il dépense sa pièce et comment, ou alors s'il la garde.
S'il économise. Évidemment, on fait varier la somme en fonction de l'âge de l'enfant.
Oui, tout à fait. Ce qui est important, en fait, c'est que les parents fassent d'abord selon leurs moyens et ensuite selon les besoins de l'enfant. Donc petit enfant, petit besoin, grand enfant, plus grand besoin.
Parfois, les parents rétribuent les tâches ménagères, faire la vaisselle, nettoyer le parquet, etc. C'est une bonne idée ?
Bah, ça dépend ce que vous appelez tâches ménagères. Si c'est les tâches ménagères quotidiennes, oui. Si c'est la participation à la vie de famille, moi, je ne rétribuerai pas parce que ça fait partie
de la vie de famille.
Voilà, et chacun contribue à la vie de famille. Si c'est des tâches ménagères exceptionnelles, pourquoi pas ?
Même question pour les résultats scolaires.
Alors là aussi,
la carotte.
Ça, c'est peut-être un peu dangereux. C'est surtout dangereux si l'enfant commence à comprendre que aller à l'école, finalement, on va à l'école ou on va au collège, comme les parents vont au travail, et donc on touche un salaire. Or, c'est pas ça du tout qu'on veut faire passer, évidemment. Hein. Aller à l'école, c'est pas un emploi salarié. Aller à l'école, c'est grandir et c'est apprendre des choses pour soi. En revanche, on peut tout à fait récompenser un très bon résultat scolaire.
Sujet numéro 3, document sonore, deuxième écoute.
72% des parents français donnent de l'argent de poche à leurs enfants. Ils se comportent à peu près comme l'ensemble des parents européens qui sont 79% à le faire. En termes de somme, les Français sont les deuxièmes plus généreux donateurs, juste derrière les parents italiens. 2 euros par semaine avant 5 ans, 5 euros entre 5 et 10 ans, 10 euros entre 10 et 15 et 20 euros au-delà. Mais à partir de quel âge est-il justifié de donner de l'argent de poche à son enfant ? La réponse d'Audie Lamblard, rédactrice en chef du site internet enfant.com.
Au moins 6 ans, parce que tant qu'il ne sait pas compter, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui aura de la valeur, c'est si la pièce brille plus qu'une autre. Ensuite, donc à la fin du cours préparatoire, l'enfant, il sait bien compter. Et là, commencer à lui donner de l'argent de poche, c'est d'abord lui donner le sentiment qu'il rentre dans la cour des grands. C'est le responsabiliser. Et c'est aussi lui donner un peu d'autonomie, parce que lui seul va décider s'il dépense sa pièce et comment, ou alors s'il la garde.
S'il économise. Évidemment, on fait varier la somme en fonction de l'âge de l'enfant.
Oui, tout à fait. Ce qui est important, en fait, c'est que les parents fassent d'abord selon leurs moyens et ensuite selon les besoins de l'enfant. Donc petit enfant, petit besoin, grand enfant, plus grand besoin.
Parfois les parents rétribuent les tâches ménagères, faire la vaisselle, nettoyer le parquet, etc. C'est une bonne idée ?
Ça dépend ce que vous appelez tâches ménagères. Si c'est les tâches ménagères quotidiennes,
oui.
Si c'est la participation à la vie de famille, moi je ne rétribuerai pas parce que ça fait partie
de la vie de famille.
Voilà, et chacun contribue à la vie de famille. Si c'est des tâches ménagères exceptionnelles, pourquoi pas ?
Même question pour les résultats scolaires.
Alors là aussi, c'est peut-être un peu dangereux. C'est surtout dangereux si l'enfant commence à comprendre que aller à l'école, finalement, on va à l'école ou on va au collège, comme les parents vont au travail, et donc on touche un salaire. Or, c'est pas ça du tout qu'on veut faire passer, évidemment. Hein. Aller à l'école, c'est pas un emploi salarié. Aller à l'école, c'est grandir et c'est apprendre des choses pour soi. En revanche, on peut tout à fait récompenser un très bon résultat scolaire.
Sujet numéro 4. Vous avez une minute pour lire les titres. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
Oui, alors, c'est très facile. En fait, on le fait sans le savoir. C'est tout simplement cuisiner des grosses proportions, des plus grosses proportions quand on a le temps, par exemple le week-end, pour pouvoir en profiter tout au long de la semaine. Moi, je fais ça tout le temps parce que j'ai pas beaucoup de temps quand je rentre à la maison, mais je suis assez gourmande. J'aime bien manger. J'aime pas les trucs tout faits de l'industrie, voilà, les plats industriels. Donc, le week-end, je me fais moi-même ma petite cuisine avec les légumes que je vais chercher au marché, par exemple. C'est plus économique. Et puis, c'est aussi plus écologique parce que finalement, on va faire une seule fois la cuisine, on va gaspiller moins d'énergie. Et puis, ça peut être super bon. Il y a des trucs qui tiennent très bien. Hein, tout ce qui est, je sais pas moi, les gratins, les plats de pâtes, les soupes l'hiver.
Document numéro 2.
Bah, le poisson, c'est bon pour la santé, ça c'est sûr, mais nous, les Européens, on en consomme de plus en plus. On en consomme deux fois plus, par exemple, qu'il y a 50 ans, et ça pose des problèmes, parce que du coup, dans le monde, il y a pratiquement un tiers des populations de poissons qui sont surexploitées. Alors d'abord, il y a quelques petites choses à se souvenir, c'est que il faut regarder les labels MSC, ou alors pour l'aquaculture, on va voir ASC aussi, sur aussi bien d'ailleurs sur les conserves que sur le poisson frais, hein, ou alors on peut aussi acheter bio. Et puis pourquoi on varie ? Eh ben, c'est tout simplement pour avoir un peu moins d'impact, parce que quand on mange toujours la même chose, on tape toujours sur les mêmes, ou alors on encourage toujours les mêmes élevages. Donc au bout d'un moment, ben, trop c'est trop. Alors que finalement, il y a une richesse incroyable dans nos océans.
Document numéro 3.
Bah d'abord, c'est sympa l'été, hein. Il y en a plein en France des marchés. Et puis alors, en général, au marché, tu vas trouver les producteurs du coin, tu vas trouver les fruits et les légumes locaux, même les viandes locales parfois. Tu vas pouvoir discuter avec les commerçants, leur poser des questions, savoir s'ils ont un label, savoir si c'est bio. En général, c'est beaucoup plus écolo de pas transporter les produits et de pouvoir acheter les produits qui ont poussé ou des animaux qui sont élevés à côté. Faut savoir aussi que, par exemple, une tomate, si elle est cultivée sous serre, elle émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la même qui est cultivée à quelques kilomètres du marché en pleine saison. Donc voilà, c'est plutôt sympa et c'est plutôt bon pour la planète, les marchés.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Oui, alors, c'est très facile. En fait, on le fait sans le savoir. C'est tout simplement cuisiner des grosses proportions, des plus grosses proportions quand on a le temps, par exemple le week-end, pour pouvoir en profiter tout au long de la semaine. Moi, je fais ça tout le temps. Parce que j'ai pas beaucoup de temps quand je rentre à la maison, mais je suis assez gourmande, j'aime bien manger. J'aime pas les trucs tout faits de l'industrie, voilà, les plats industriels. Donc le week-end, je me fais moi-même ma petite cuisine avec les légumes que je vais chercher au marché, par exemple. C'est plus économique. Et puis c'est aussi plus écologique parce que finalement, on va faire une seule fois la cuisine, on va gaspiller moins d'énergie. Et puis c'est peut être super bon. Il y a des trucs qui tiennent très bien. Hein, tout ce qui est, je sais pas moi, les gratins, les plats de pâtes, les soupes l'hiver.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Bah, le poisson, c'est bon pour la santé, ça c'est sûr, mais nous, les Européens, on en consomme de plus en plus. On en consomme deux fois plus, par exemple, qu'il y a 50 ans, et ça pose des problèmes, parce que du coup, dans le monde, il y a pratiquement un tiers des populations de poissons qui sont surexploitées. Alors d'abord, il y a quelques petites choses à se souvenir, c'est que il faut regarder les labels MSC, ou alors pour l'aquaculture, on va voir ASC aussi, sur aussi bien d'ailleurs sur les conserves que sur le poisson frais, hein, ou alors on peut aussi acheter bio. Et puis pourquoi on varie ? Eh ben, c'est tout simplement pour avoir un peu moins d'impact, parce que quand on mange toujours la même chose, on tape toujours sur les mêmes, ou alors on encourage toujours les mêmes élevages. Donc au bout d'un moment, ben, trop c'est trop. Alors que finalement, il y a une richesse incroyable dans nos océans.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Bah d'abord, c'est sympa l'été, hein. Il y en a plein en France des marchés. Et puis alors, en général, au marché, tu vas trouver les producteurs du coin, tu vas trouver les fruits et les légumes locaux, même les viandes locales parfois. Tu vas pouvoir discuter avec les commerçants, leur poser des questions, savoir s'ils ont un label, savoir si c'est bio. En général, c'est beaucoup plus écolo de pas transporter les produits et de pouvoir acheter les produits qui ont poussé ou des animaux qui sont élevés à côté. Faut savoir aussi que, par exemple, une tomate, si elle est cultivée sous serre, elle émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la même qui est cultivée à quelques kilomètres du marché en pleine saison. Donc voilà, c'est plutôt sympa et c'est plutôt bon pour la planète, les marchés.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.